Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est le numéro 6 concernant le salut. Nous avons déjà traité le salut, mais c'est tellement important que le Seigneur m'a donné dans le cœur de refaire une petite série, car sans le salut, il n'y a pas de possibilité de rejoindre un jour ou l'autre, et pour certains comme moi, bientôt, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Donc, chers amis, voici les 18 raisons qui nous permettent de croire. 18 raisons qui peuvent à tout un chacun pouvoir savoir comment nous pouvons croire. Beaucoup d'hommes et de femmes passent tout le temps et dépensent tout leur argent sur leur corps, qui n'est que le cadre qui contient le vrai moi, l'âme qui survivra longtemps quand le corps se désintégrera en la poussière. L'âme est donc d'une valeur infinie. Jésus-Christ a dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Saint Marc, chapitre 8, verset 36. À son avis, votre âme est plus importante que le monde entier. Pensez à des choses qui préoccupent votre possession la plus précieuse. Est-ce qu'il existe un Dieu ? Est-ce que la Bible est vraie ? Est-ce que Dieu pardonne ? Premièrement, tout d'abord, comment est-ce que je peux savoir qu'il y a un Dieu ? Chers amis, je suis convaincu que Dieu existe. Quelle que soit la manière dont j'essayais de prouver qu'il n'existe pas, je voulais croire qu'il n'y avait pas un Dieu. Mais cette petite voix calme, elle m'a dit beaucoup de fois que j'avais tort. Certaines personnes ne croient pas en Dieu, mais les problèmes de l'incrédulité sont plus importants que les problèmes de la foi. Cela n'exige pas la foi, plutôt la crédulité de croire que sans aide, la matière morte a produit de la vie, l'intelligence et la conscience, et que le chaos et la chance a produit le cosmos de l'ordre. La Bible dit dans le psaume 14, verset 1, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Pensez à ceci d'une autre manière. Nous sommes à l'aéroport, nous regardons un jet s'apprêter à atterrir. Je vous dis, la plupart des gens pensent qu'un jet est construit selon des plans soigneusement conçus, mais aucun esprit intelligent n'a point travaillé là-dessus. D'une façon très bizarre, le métal est simplement sorti de la terre, il s'est transformé en des feuilles et après un certain temps, celles-ci ont pris la forme d'un corps, des ailes, de la queue. Ensuite, les moteurs se sont lentement développés et un jour, quelques gens ont trouvé l'avion terminé, prêt à voler. vous me considérerez un peu fou, car vous savez très bien que là où il y a un dessin, il doit y avoir un dessinateur. Vous savez que le jet a été conçu par l'intelligence humaine et construit par le savoir-faire humain. Mais beaucoup d'hommes nous disent que l'univers entier est né par hasard et qu'aucune intelligence plus grande ne l'a conçu. Ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, seulement la nature. L'athée offre un dessin sans le dessinateur, la création sans un créateur, chaque effet devenant la cause d'un autre effet. Cela nous force à admettre qu'il a dû y avoir un commencement. La première cause, c'est Dieu. Une chose si parfaitement créée telle que notre terre et notre univers doit avoir un créateur, doit avoir un maître qui dessine les choses. Une chose si en ordre, si parfaite, si précisément équilibrée, on peut dire si majestueuse que cette création, ne peut être que le produit d'une idée divine. Le professeur Gonklin a dit « La probabilité que la vie a commencé par un accident égale la possibilité d'un dictionnaire qui résulte d'une explosion dans une imprimerie. » Dieu existe. Si les hommes choisissent de croire en lui ou non, la raison pourquoi beaucoup de gens ne croient pas, c'est par la foi en Dieu les forcerait donc de faire face au fait qu'ils doivent se justifier un jour ou l'autre devant Dieu. Oui, beaucoup ne veulent pas confronter ce fait. Ils préfèrent de se réfugier dans l'athéisme ou l'agnosticisme. Ils ne disent pas « je ne peux pas croire en Dieu », plutôt « je ne veux pas croire en Dieu ». En examinant une chose que j'ai faite, un policier saura beaucoup sur moi, mes habitudes, mes habiletés et mon caractère. Nous pouvons apprendre beaucoup sur Dieu en étudiant l'univers qui est l'œuvre de ses mains. Mais le policier qui examine ce que j'ai fait ne peut jamais dire qu'il me connaît vraiment. Je dois lui dire ce que je pense, ce que je sens, ce que je fais, et alors seulement à ce moment-là, il peut me connaître. Pareillement, si Dieu veut que l'on le connaisse, il doit révéler ses pensées, ses désirs et ses buts. Deuxièmement, est-ce que la Sainte Bible est vraiment vraie? Il n'existe qu'un seul livre qui nous parle de Dieu, et c'est la Sainte Bible. C'est un livre tellement important que nous devons le lire. Un juge ne doit pas prendre une décision quand un cas a été à moitié entendu. Comme le juge, nous devrions comparer l'évidence, cherchons la vérité. La Sainte Bible consiste de 66 livres écrits par au moins 40 différents hommes au cours de 1600 années dans des lieux aussi éloignés que Babylone et Rome. Tenant compte de tant d'écrivains, on s'attendrait à de nombreuses différences, mais son unité est extraordinaire, car chaque livre correspond à tous les autres. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu, explique 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Et des prophéties ont été accomplies des centaines d'années plus tard. Par exemple, Ésaïe 53 a prédit la mort du Christ d'une précision si détaillée, plus de 700 années avant sa crucifixion. Il y a 333 prophéties qui nous parlent du premier avènement de Jésus-Christ. Les difficultés que on parle, que l'on confronte en doutant de ce livre extraordinaire, sont plus importantes que celles que l'on confronte en le croyant. La Sainte Bible a exigé un niveau de perfection que je n'avais pas atteint. Elle a dit que tout ce qui n'atteignait pas le niveau de Dieu était le péché. Dieu connaît toutes nos pensées, les pensées les plus secrètes. Alors pensez-y, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que vous avez vécu selon cela toute votre vie? Personne ne peut prétendre un tel niveau de perfection. Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 10 à 23. Tous n'ont pas réussi à atteindre le niveau de Dieu. Troisièmement, est-ce qu'il est juste que Dieu a établi un niveau de sainteté tellement haut que nous ne pouvons pas l'atteindre et qu'il nous juge ensuite car nous n'avons pas réussi? Dieu n'a pas établi un niveau de sainteté. Il est, lui, ce niveau. Il est absolument saint, et afin de rester fidèle à son propre caractère, il doit rester absolument saint dans tous ses rapports avec les hommes. Ma conscience et mon bon sens m'ont forcé d'admettre que je suis privé du niveau de Dieu, de sa sainteté absolue, et que je suis donc pécheur. En admettant tous mes péchés, j'ai vu la condamnation de Dieu, l'âme que les péchés tueront tôt ou tard. En Grande-Bretagne, des conducteurs doivent rester à gauche, alors qu'à New York, la règle est que des conducteurs doivent rester à droite. Si je conduis à New York et reste à gauche, et si j'apparais devant le juge, je dis « Oh, c'est ridicule, à Londres, nous conduisons à gauche. Vous n'êtes pas jugé selon les lois anglaises », serait sa réponse. Vous devriez vous occuper des lois qui vous jugent ici. Puisque le niveau de Dieu était celui par lequel je serai éternellement jugé, je suis désespérément perdu. Et oui, c'est la vérité. Je suis exactement perdu. Et cela ne fait rien ce que je pense de moi-même. Non, non, non. Ou ce que mes amis me disent. Je serai jugé par ce que Dieu a dit et non pas par ce que mes amis m'ont dit. Puisque selon le jugement de Dieu, nous avons tous péché, ce n'était pas la peine de chercher l'aide ailleurs, car ils étaient aussi coupables que moi. Mais la Bible m'a parlé de Jésus-Christ qui prétendait d'être le Fils de Dieu. Il a vu que des hommes avaient perdu leur vie au péché et par le péché. Sa vie n'était pas perdue car elle était sans péché et elle était parfaite. Il était prêt à donner sa vie pure au lieu de la vie pécheresse, cette vie des hommes, pour que nous, que toi, que nous puissions être libres. Saint Jean chapitre 3 verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous sommes donc sûrs du salut. Mais quatrièmement, est-ce que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu? Il pouvait seulement être le Fils de Dieu, un trompeur ou un homme qui était en proie à ses fantasmes. Quelques-uns des hommes les plus intelligents ont été envoyés afin de le prendre à ce qu'il a dit. Et alors, il les a fait taire et ils n'ont pas osé de lui poser davantage de questions. Saint Matthieu chapitre 22, verset 45. Si vous pensez à sa sagesse, vous verrez qu'il ne se faisait pas des illusions. Est-ce que sa sagesse était tellement grande qu'il s'en est servi afin de tromper des gens? Est-ce que vous avez jamais entendu parler d'un homme qui se mêlait aux grédins, aux crétins, et qui est devenu pur et honnête ensuite? Non, absolument pas. Mais j'ai connu des hommes qui ont accepté Christ dans leur vie et ils ont été élevés de leurs désirs qui étaient des désirs à ras le sol, très bas, au caractère le plus haut. Si nous recevions un crétin dans notre vie, eh bien, elle ne changerait pas pour le bien. Une pomme pourrie ne peut pas rendre saines les autres pommes. Au contraire, elle va contaminer les pommes saines. Jésus-Christ était un homme bon, alors il était un homme honnête, et si honnête, il a dû être ce qu'il prétendait d'être, c'est-à-dire le Fils de Dieu, envoyé afin de donner sa vie sans péché au lieu de votre, de la vôtre. Et il a donné sa vie pour ma vie pécheresse. Pensez un peu à ces faits. Il a été né contre les lois de la nature, il a vécu dans la pauvreté, il a été élevé dans l'obscurité, il n'avait pas de richesse, il n'était pas formé ni instruit. Ses parents étaient simples et n'avaient pas d'influence. En tant que bébé, il a terrifié un roi. En tant que jeune, il a confondu les professeurs. En tant qu'homme, il a régné sur la nature. Il a marché sur la vague et il a calmé la mer. Il a guéri les foules sans médicaments. et il n'a pas fait payer ses services. Il n'a jamais écrit un livre, mais toutes les bibliothèques du pays ne pourraient pas contenir tous les livres écrits sur lui. Il n'a jamais écrit un chant, mais davantage de chansons ont été écrites sur lui que sur personne d'autre. Voyez-vous, il n'a jamais établi un collège, mais toutes les écoles n'ont pas eu autant d'élèves que Jésus-Christ. Il n'a jamais étudié la médecine, mais il a guéri plus de cœurs brisés que les médecins ont guéri de corps brisés. Des grands hommes sont venus et sont morts. Il vit toujours. Hérode n'est pas arrivé à le tuer. Satan ne pouvait pas le tuer. La mort ne pouvait pas le détruire et la tombe ne pouvait pas le tenir. Convaincu que la Bible est vraie, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, croyant que Dieu m'aimait tant qu'il était prêt à l'envoyer souffrir la pénalité de mes péchés pour que je puisse être libéré, je devais donc accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Vous protestez peut-être que bien que la Bible puisse être vraie, des idées différentes sont possibles. Soyez donc raisonnables et mettez-les à l'épreuve juste. Cinquièmement, peu importe ce qu'un homme croit, s'il est sincère dans sa foi. Voilà une idée humaniste. Mettons cette déclaration à l'épreuve. Un dimanche matin, un homme est allé avec sa femme et sa famille en voiture pour un pique-nique. Il est arrivé à un passage à niveau et croyant sincèrement qu'il n'y avait pas de train le dimanche, il a commencé à le traverser. Il a été tué et sa famille a été gravement blessée. Est-ce que sa foi sincère, que le chemin était sans obstacle, l'a sauvé? Absolument pas. Une infirmière a sincèrement cru qu'elle avait les bons médicaments, mais elle avait tort, et dans 20 minutes, son malade était mort. Bien sûr, nous devons être sincères, mais nous devons croire sincèrement la vérité et non pas l'erreur. Au fait, de croire sincèrement en l'erreur peut être un moyen de nous tromper et de détruire. Christ a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Saint Jean chapitre 14, verset 6. Il n'y a point d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Si vous pouvez aller au ciel par un autre chemin, vous serez un témoin pour l'éternité que Jésus-Christ a parlé faussement quand il a dit qu'il n'y a pas d'autre chemin. Comme il prouve qu'il est le Fils de Dieu, est-ce qu'il n'est pas dangereux d'essayer de venir à Dieu par un autre chemin que Jésus-Christ, le chemin de Dieu? La véritable raison pourquoi nous voulons prendre un autre chemin, c'est que parce que le chemin de la croix est un chemin qui nous humilie et nous sommes orgueilleux. Mais le chemin de la croix était un chemin humiliant pour Christ et il ne s'en est pas reculé, il ne s'en est pas écarté. Sixièmement, est-ce que je pourrai honnêtement me retourner et faire du mieux dans l'avenir. Eh bien, quelques gens disent que si nous changeons de conduite et promettons de faire mieux, cela nous rendra dignes du ciel. Est-ce que cela marchera? Supposez que votre commerce doit 500 000 euros et que vous ne pouvez pas les payer. Vous écrivez des lettres à tous, leur disant que vous n'allez pas vous inquiéter des dettes passées, que vous avez tourné la page dans votre grand livre et que vous promettez de payer vos dettes futures. Vos clients vous considéreraient un peu fou et ils refuseraient de l'accepter, mais des milliers de gens autrement raisonnables essayent d'aller au ciel de cette façon-là. Ils pensent, oui, ils refusent de s'inquiéter du passé, mais Dieu ramène ce qui est passé. Notez Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Même si nous pouvions commencer à mener une vie absolument parfaite, une chose impossible, nous sommes toujours des pécheurs. Le juste ou la justesse de Dieu, oui, la justice de Dieu exige qu'aucun compte passé ne soit réglé avant quoi? Avant qu'il soit payé au dernier sou. Un meurtrier vivra peut-être une vie de citoyen parfait pendant 10 années, mais quand on le découvre, on le condamne. Bien qu'il n'ait tué personne pendant 10 années, il est toujours meurtrier. Si nous cachons nos péchés passés parce qu'il apparaît d'être une vie parfaite, nous sommes toujours des pécheurs aux yeux de Dieu. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous libérer de nos péchés. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le seul qui peut le faire. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Romains chapitre 5, verset 10. Jésus-Christ a donné sa vie au lieu de la nôtre, et cela pour que nous puissions être libérés. Il a réglé notre péché passé. Septièmement, pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait mourir? Eh bien, l'homme avait désobéi aux lois de Dieu et la pénalité était la mort. Si Christ avait payé moins, alors le prix entier serait toujours le jugement à venir. Mais parce que Christ Jésus est mort pour toi et pour moi, la loi à laquelle nous avons désobéi ne peut plus nous juger. La Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains chapitre 8, verset 1. Une affaire non terminée a prolongé d'un jour. Je répète, une affaire non terminée a prolongé d'un seul jour. Alors, entrant dans le tribunal, le lendemain matin, le juge a dit au jury, « Messieurs, l'affaire, elle est congédiée. » Et le prisonnier est mort dans sa cellule pendant la nuit. Ce n'était pas la peine de continuer l'affaire. car la loi ne peut pas juger un mort, évidemment. Alors si un homme tue une personne, il peut être emprisonné toute sa vie, mais s'il tue 6 personnes, il peut seulement être emprisonné toute sa vie, pas plus, car la loi ne peut pas faire davantage, quels que soient les péchés d'un homme. Donc, il n'est pas important qu'il y a des péchés dans ma vie que j'ai oubliés il y a fort longtemps. Je ne les crains plus, car Jésus-Christ, mon remplaçant, c'est lui qui a souffert la pénalité totale de la loi pour moi, me libérant ainsi totalement de ses demandes. Huitièmement, si Jésus-Christ est mort pour tous, alors nous sommes tous forcément sauvés. Eh bien, ceci paraît raisonnable, mais Dieu ne le dit pas ainsi. Il dit qu'il y a le salut pour tous, mais tous ne sont pas sauvés, voilà le problème. Il est ainsi pendant un hiver, quand il faisait un froid de loup et le chômage augmentait et beaucoup avaient de grands besoins. Alors les autorités municipaux fournissaient des repas gratuits. Vous rencontrez un homme dans la rue qui dit qu'il meurt de faim. Vous demandez s'il croit les affiches qui pourtant disent que l'on offre à tous de la nourriture gratuite. Il dit « Oh oui, je crois que c'est vrai en général, mais moi j'ai toujours faim. » Vous lui dites qu'il aura toujours faim s'il ne mange et ne boit pas ce que l'on lui a fourni gratuitement. Mais bien que la mort de Jésus-Christ donne le salut, seulement ceux qui l'acceptent personnellement, je dis bien personnellement, le libre choix, sont sauvés. Et ceux qui croient qu'il est mort à leur place, je dois donc accepter Christ en tant que mon sauveur, sinon sa mort ne me sauvera pas, comme un homme pourrait mourir de soif, par exemple, à côté d'une source d'eau, s'il refusait d'en boire. Neuvièmement, comment est-ce que la vie de Jésus-Christ pourrait suffire comme le remplaçant ? Christ était Dieu en l'homme, alors la vie qu'il a donnée était la vie infinie qui peut répondre aux besoins d'un nombre de vies finies. Écrivez tous les grands chiffres que vous pouvez imaginer, additionnez-les, multipliez-les par des millions et vous avez toujours un chiffre fini. Il a un commencement et une fin, et en ajoutant des choses finies à d'autres choses finies, personne ne peut faire une chose infinie. La vie infinie de Jésus-Christ, par contre, elle suffit largement pour sauver tous qui viennent à Dieu et qui l'acceptent. Dixièmement, comment est-ce que Jésus-Christ peut suffire pour mes péchés quand ils ont été commis il y a plus de 2000 ans plus tard? Eh bien, Dieu sait tout et il est éternel. Dans Exode, chapitre 3, verset 14, il s'appelle « Je suis celui qui est ». Et Christ dit dans Saint Jean, chapitre 8, verset 58, « Avant que Abraham fût, je suis. » Alors il est Dieu, il sait tout et il est éternel. Des événements qui se sont déroulés il y a plus de 2000 ans ou qui se dérouleront d'ici 2000 ans sont aussi clairs que ceux qui se déroulent maintenant. Onzièmement, pourquoi est-ce que Dieu a formé l'homme et pour qu'il soit capable de lui désobéir et donc qu'il est capable de pécher? Voilà une question délicate. C'est comme si l'on demandait pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas dessiner un trait droit, crochu, ou un carré rond. L'homme a le pouvoir du choix intelligent, alors il s'agit vraiment de ceci. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé en même temps un être avec le pouvoir du choix intelligent et sans le pouvoir du choix intelligent? Alors, si je hypnotise, par exemple, mes fils, leur volant ainsi le pouvoir du libre choix intelligent, et si je dis « assieds-toi, mange » ou « ne mange plus », j'obtiendrai l'obéissance parfaite. Mais est-ce que je serai vraiment satisfait? Je ne pense pas. Je veux avoir des fils avec le libre arbitre qui peuvent me désobéir, mais qui font volontiers ce que je leur dis, car ils m'aiment. Je ne peux pas croire que Dieu se contente de moins que cela. Dieu ne désire pas des marionnettes qui sautent quand on tire les ficelles, ni des robots qui font machinalement sa volonté. Dieu ne se contente que de l'amour spontané et nos décisions volontiers de marcher dans les voies qui lui plaisent et qui l'honorent. Donc, nous sommes créés des êtres humains et non pas des machines. Et ce même pouvoir nous permet de le déshonorer ou de le défier si nous le choisissons ainsi. L'homme est donc un être vraiment magnifique, bien supérieur aux animaux. Il n'existe pas de chaînon manquant et il y a un gouffre énorme entre la bête la plus supérieure et l'homme, car Dieu lui a donné le pouvoir imposant de pouvoir lui dire non ou oui. Dans votre propre intérêt, qu'est-ce que vous lui dites maintenant pendant que vous écoutez ce message? Douzièmement, est-ce que Dieu s'intéresse à ce petit monde et à l'homme? L'immensité des cieux avait volé d'un astronome la foi simple qu'il avait. Car comment est-ce que Dieu s'inquiétait de l'homme qui, par rapport, est plus petit qu'un grain de sable? Il étudiait les cieux et la nuit, il a commencé à se servir d'un microscope puissant pendant la journée et des nouveaux mondes énormes se sont ouverts à ses pieds, des mondes aussi merveilleux que ceux au-dessus de lui, et lentement, sa foi est enfin revenue. Dieu, qui s'intéressait à un tel détail minuscule qu'il a fait une goutte d'eau sale vibrer de vie, s'intéressait certainement à l'homme. La forme la plus supérieure de sa création, c'est l'homme. Il a trouvé un équilibre au lieu d'un penchant et cela l'a attiré de nouveau à Dieu. Saint Jean, chapitre 3, verset 16, était après tout vrai. Dieu a vraiment aimé le monde. Troisièmement, est-ce que la foi est logique? Oui, elle l'est. Vous avez tort de penser que la foi s'oppose à la raison. La foi et la raison vont ensemble, mais la foi continue quand la raison doit s'arrêter. La raison, en grande partie, se dépend de la foi, car sans la connaissance, il est impossible de raisonner, et la connaissance s'agit énormément de la foi. Par exemple, je crois qu'une grande dose de strychnine va me tuer. Je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai tant de foi en ce qui est écrit que je ne prendrai jamais une grande dose de strychnine. Si vous vérifiez, vous trouverez que la plupart des choses que vous connaissez sont par la foi, car vous ne les avez pas essayées vous-même. Ayant accepté ce que disent les autres et ce que vous n'accepterez pas, ce que disent des milliers de chrétiens qui ont prouvé les choses écrites dans la Bible, les sachant absolument vraies. Quatorzièmement, pourquoi est-ce que Dieu devrait juger mes péchés dignes de la mort? Mais à cause de sa sainteté infinie, le péché ne peut point exister dans sa présence. Considérez comment le péché apparaît au Dieu infiniment saint. Le fait que nous sommes des êtres humains nous aveugle à notre méchanceté et à la perfection de Dieu et nous le rend plus difficile à comprendre. Quelques-uns disent qu'un Dieu d'amour ne condamnerait pas un pécheur à souffrir interminablement. Mais quand nous devenons saints comme Dieu, nous comprendrons l'horreur du péché et la justesse parfaite de Dieu en ses rapports avec les hommes. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 5. Quinzièmement, il est peut-être juste, mais est-ce que Dieu est miséricordieux s'il refuse de nous faire entrer tous dans le ciel si nous rejetons Christ? Oui, il est juste et miséricordieux. Est-ce qu'il serait gentil de placer un mendiant pauvre et déguenillé dans la lumière éblouissante d'une belle salle de bal? Il serait conscient de ses lambeaux et de sa saleté et il s'échapperait aux ténèbres de la rue. Est-ce qu'une personne impie serait plus contente et plus à l'aise parmi les justes au ciel qu'il est sur la terre? Est-ce qu'il serait gentil de Dieu de faire entrer dans la lumière pénétrante du ciel un homme qui est couvert de ses péchés, si cet homme avait rejeté totalement, consciemment, librement, l'offre de Dieu du seul pouvoir purifiant qu'il existe. Nous ne désirons pas que nos amis voient dans nos têtes et lisent toutes les pensées qui y sont entrées. Et les niveaux de nos amis ne sont pas meilleurs que les nôtres. Il sera comment, oui, comment sera de se mettre devant Dieu, dont la sainteté absolue révélera notre péché dans toute son horreur. Voyez-vous, quand ceux qui refusent d'accepter Christ comme sauveur entrent dans l'éternité couverts de leurs péchés, ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Apocalypse chapitre 6, verset 16. Mais c'est la présence de ce même Jésus-Christ qui plaira à ceux qui l'ont accepté comme sauveur et seigneur. Vous comprenez qu'il est absurde de dire que Dieu nous laissera tous entrer au ciel, car le ciel est un état et aussi un lieu. La présence de Jésus-Christ sera le paradis pour ceux qui sont purifiés de leurs péchés, bien que cette même présence soit un enfer de remords pour tous ceux qui sont toujours couverts de leurs péchés et se tiennent dans la lueur infinie de sa sainteté. Soyez donc raisonnables. Est-ce que vous pourriez être vraiment content dans la présence de celui-là, alors que vous avez rejeté son amour, et alors que vous ne vous avez pas donné la peine d'accepter ses grands sacrifices? Vous avez vu que Dieu existe et qu'il a montré dans la Bible ses demandes saintes. Oui, ces demandes qui sont des demandes saintes pour les hommes et les femmes. Vous avez vu que tous ont péché. Romains 3, verset 23. Vous savez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde afin de mourir pour les péchés des hommes. Vous avez noté quelques-unes des objections soulevées par des gens qui pensent autrement du plan de Dieu du salut. Maintenant, pensez à la sagesse et à la merveille du plan de Dieu. L'amour de Dieu vous aurait jugé, vous, le pécheur, mais l'amour de Dieu contraint le jugement. Pensez-y encore une fois. Dieu est amour et il veut sauver le pécheur. Dieu est juste aussi, mais le péché doit être puni, alors le pécheur doit mourir. Comment réconcilier sa justesse avec son caractère d'amour merveilleux, car cela était un problème qu'aucun philosophe humain ne pourrait résoudre, mais sa sagesse divine et sa miséricorde se sont manifestées de la façon la plus haute dans la solution par la souffrance et la mort de Dieu le Fils Jésus-Christ qui est mort à votre place et à ma place. Dieu agit comme le juge dans cette histoire. Deux hommes qui ont étudié ensemble la loi. L'un d'entre eux a été nommé juge, mais l'autre a commencé à boire et il a gaspillé toute sa vie. Un jour, le souillard a été appelé devant son ancien ami afin d'être accusé. Les avocats présents se demandaient quelle sorte de justice serait rendue par le juge. Or, à leur grand étonnement, il a prononcé la sentence la plus sévère. Et ensuite, il a payé lui-même l'amende très forte et il a libéré son ancien ami. Dieu contre qui nous avons péché, il a jugé et il a prononcé la condamnation la plus sévère possible, la mort pour le pécheur. Ensuite, dans sa miséricorde, il est venu du ciel en tant que Jésus-Christ et il a pris la place des pécheurs, mourant ainsi sur la croix dans et à votre place, à ma place. Et il offre maintenant le pardon absolu et gratuit. C'est la liberté du péché que vous pouvez avoir ce moment même, si vous voulez la croire et l'accepter. 16e. Il paraît si simple, si j'accepte Jésus-Christ comme sauveur, alors est-ce que c'est tout ce qui me suffit pour me sauver éternellement? Eh bien oui, sa simplicité le rend difficile à croire, mais si je dois 5 000 euros et je ne peux pas payer, et si un ami va payer ma dette à ma place, me donne le reçu, je ne m'inquiéterai plus. Je peux donc confronter mon Créateur, car j'ai signé le reçu. Quand Jésus-Christ a donné sa vie à ma place sur la croix, il a dit « Tout est accompli », disant que le travail de l'expiation était fait et Dieu m'a donné le reçu. Pour montrer qu'il était content, il a ressuscité Jésus-Christ de la mort le 3e jour. « Je ne le comprends pas », a dit un ébéniste pendant qu'un ami essayait de l'expliquer. Alors voilà qu'une idée lumineuse est venue à l'esprit de l'ami et soulevant un rabot, il a fait semblant de raboter la surface d'une merveilleuse table en ébène qui était bien polie. « Oh, arrête, arrête !» a crié l'ébéniste. « Est-ce que tu ne vois pas que elle est finie, magnifique ? Tu vas la ruiner, tu vas la détruire, cette table. » Eh bien, c'est ce que j'essayais de te dire. Tout était fini quand Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Si tu essayes d'y ajouter quelque chose, tu le ruineras. Accepte-le tout simplement, sa vie pour la tienne, et tu seras libéré. Tout d'un coup, l'ébéniste a compris, et il a reçu Jésus-Christ dans sa vie en tant que son sauveur et son Seigneur. Voici un problème. Je connais un très bon homme, qui est vraiment très bon, et qui, à maint égard, est bien meilleur que certains chrétiens. Et ça se passe souvent. Alors, 17e, Est-ce que Dieu préfère le chrétien moins bon à cet homme qui est très bon, très généreux, mais qui n'est pas chrétien du tout? Eh bien, ceci était un obstacle pour moi pendant assez longtemps, avant que j'aie lu la loi de la biogenèse, quand l'obstacle a disparu. La biogenèse est la doctrine que des organismes vivants ne peuvent être créés que par des organismes qui existent déjà. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de vie antérieure. Il n'y a pas de vie spontanée. Jésus-Christ constatait un fait simple, scientifique, quand il a dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. » Saint Jean chapitre 3, verset 6. Un chrétien n'est pas différent en degré d'un non-chrétien, mais il est différent en espèce, comme la différence entre un diamant et un chou. L'un est poli, l'autre est cru. L'un est mort, l'autre est vivant. L'un possède ce que l'autre ne possède pas du tout, qui est la vie. C'est la différence aux yeux de Dieu entre un chrétien et un non-chrétien. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, même s'il est un très bon homme ou femme, n'a pas la vie. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. La question importante est-ce que je suis vivant ou mort par rapport à Dieu? Est-ce que j'ai reçu le Fils de Dieu qui me donne la vie? Ou est-ce que je ne l'ai pas reçu, étant donc parmi ceux qui, selon Dieu, n'ont pas la vie? 18. Comment est-ce que je peux recevoir Jésus-Christ comme mon Sauveur? Est-ce que je crois simplement qu'il a donné sa vie au lieu de la mienne? Eh bien, si vous considérez sympathiquement les souffrances physiques de Christ jusqu'à ce que les larmes tombent de vos yeux, mais si c'était tout, vous auriez failli misérablement de comprendre la véritable signification de la croix. Celui, Christ, qui n'a point connu le péché, il, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Considérer l'horreur du péché à un Dieu saint et comprenez pourquoi Christ se tourne avec répugnance du péché et qu'il crie en agonie. Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Saint Matthieu 26, verset 39. Mais malgré ce cri d'agonie, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Est-ce que vous allez vraiment refuser celui qui a tant souffert pour vous, vous l'avez raisonné, vos sentiments ont été profondément éveillés. Ils exigent à votre volonté une décision et il n'y a qu'une chose à faire. Vous devriez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, car il a porté tous vos péchés. Il se présente devant vous maintenant. Est-ce que vous l'accepterez comme Sauveur et Seigneur personnel maintenant? Ce mystère me dépasse. Ne vous inquiétez pas du mystère. Nous ne pouvons pas le comprendre. Réjouissez-vous du fait. L'électricité est toujours un mystère. Je connais les lois qui la règlent, mais je ne le comprends pas vraiment. Ne vous inquiétez pas du mystère de l'électricité. Acceptez ses bienfaits. Pareillement, acceptez les bienfaits et ne vous inquiétez pas du mystère et devenez une nouvelle personne en Christ, car il est aussi simple que si l'on allume l'électricité. Dites simplement, « Ô Dieu, je ne peux pas comprendre pourquoi tu m'as tant aimé que tu as envoyé Christ pour porter le salaire de mes péchés. Je suis prêt à me donner entièrement à toi. J'ai confiance en sa mort pour moi. Et la promesse, oui, cette promesse que tu as faite dans Saint Jean chapitre 3 verset 16, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors donnez-vous, chers amis, donnez-vous maintenant à lui. Il attend d'entrer dans votre vie. Dites, je t'appartiens, Seigneur Jésus-Christ. Je te donne ma vie, mon corps, mon âme, et mon esprit, et tu m'appartiens, et je t'appartiens. Voilà ce qu'il faut faire. Et voici donc ma décision. Devant Dieu qui connaît mes pensées, les pensées les plus profondes, je confesse que je suis pécheur et que j'ai l'intention de changer ma vie. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Je me rends entièrement à lui. Je sais par sa sainte parole, selon Saint Jean chapitre 5, verset 24, que j'ai la vie éternelle, car il a dit, celui qui a écouté ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il ou elle a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il ou elle est passé de la mort à la vie. Saint Jean chapitre 5 verset 24. Et là nous pouvons dire alléluia. Chers amis, alors que vous l'avez fait, écoutez une deuxième fois ce message, et il paraîtra plus clair. Commencez ensuite à lire l'évangile de Saint Jean dans le Nouveau Testament. J'ai honte à être obligé de vous dire, évidemment, j'ai honte, car avec mes 4 ans d'école primaire, un père qui s'est marié 5 fois, une longue et terrible histoire, Eh bien, j'ai dû lire 3 fois l'évangile de Saint Jean, tellement que j'étais bête, pour comprendre que j'étais totalement perdu. Un dernier point très important. La Bible dit que celui qui croit en lui n'aura plus jamais honte. Vous dites que vous avez accepté Christ, alors allez donc le dire à quelqu'un et n'ayez pas honte de le confesser comme votre sauveur. Qu'est-ce qu'il a dit le fondateur William Booth, le fondateur de l'armée du salut? Il a dit « Sauver pour servir ». Ça, c'est quelque chose. Il n'a pas dit « Sauver pour vous asseoir sur les bancs dans la salle de l'armée du salut et de baisser la tête et de rester là, comme ça, silencieusement, et de relever la tête quand l'officier de l'armée du salut ou une sœur de l'armée du salut est en train de prêcher. Non, non, non. Il a dit « sauver pour servir ». Évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas aller régulièrement au culte de votre église, de votre assemblée. Surtout y aller, allez-y tout le temps. Allez-y pour être avec les autres, pour pouvoir ensemble évoluer spirituellement, grandir spirituellement, vous aider les uns les autres. C'est important. Par contre, il faut bien savoir que vous n'êtes pas sauvé simplement pour dire « Je suis maintenant sauvé, alléluia, et tout le reste, c'est plus mon problème. Moi, je suis en ordre, je sais où je vais. » Ça, c'est de l'égoïsme pur. Non, sauvé pour servir. Et c'est un privilège de partager votre foi toute neuve avec d'autres pour qu'ils puissent recevoir Christ également. C'est important cela. Quel est donc le choix du soldat? J'essayais de mener un soldat à accepter Christ, mais il essayait de prendre la tangente en promettant « J'y penserai un jour bientôt ». Alors, Harry, voilà ce que j'ai dit. Suppose que tu es allé un soir en reconnaissance dans le terrain de l'ennemi. En rentrant, tu reçois une balle. Or, un autre soldat te porte à tes propres lignes et lui, il est blessé. On vous conduit tous les deux à l'hôpital et plus tard, une infirmière fait venir un homme à ton lit. Elle dit « Harry, je veux te présenter Bill, qui a risqué sa vie pour sauver la tienne. » Tu croises simplement les bras et tu dis « Je ne sais pas si je veux faire sa connaissance, j'y penserai peut-être un jour. » Non, 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 tu ne le diras pas ainsi, n'est-ce pas? Tu le saisiras par la main, en tout cas moi je le ferai ainsi, et tu lui dirais comment tu lui es et combien tu lui es reconnaissant. Je veux te présenter Jésus-Christ qui a non seulement risqué sa vie, il l'a sacrifié pour te sauver. Est-ce que tu vas tourner le dos et lui dire « J'y penserai un jour ». Non, 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 non. Il a dit « Je l'accepterai ». Alors, nous nous sommes mis à genoux pendant qu'il a dit au Seigneur qu'il l'acceptait comme son sauveur personnel. Est-ce que vous y pensez ou est-ce que vous avez fait face à la question et décidé, comme vous savez qu'il vous faut vraiment décider maintenant ou jamais. Chers amis, connaissez-vous la vieille histoire? Demain, il s'est promis la conscience. Demain, je pense croire. Demain, j'y penserai comme il faut. Demain, j'accepterai mon sauveur. Demain, je surmonterai les habitudes qui ne me laissent pas entrer au ciel. Mais sa conscience répétait toujours un mot, un seul mot, aujourd'hui. Demain, demain, demain. Ainsi, il a continué jour après jour. Demain, demain, demain. Finalement, sa jeunesse s'est évanouie comme par un rêve. L'âge, les cheveux blancs et ses passions avaient écrit le message de son sort sur le front. Et la mort est sortie de l'ombre, accompagnée par un maintenant ou jamais. Chers amis, pour terminer, voici quelques idées pour l'emploi de ce message. Si vous avez trouvé ce message intéressant, pourquoi pas obtenir d'autres copies pour en donner à vos amis? Beaucoup d'églises se servent de voici la raison dans leur visitation pendant qu'elles partagent la bonne nouvelle avec d'autres. Si vous vous êtes fié à Jésus-Christ pendant que vous écoutez ce message, nous serons heureux de vous envoyer un autre message qui vous aidera dans votre vie chrétienne. Ceci, croyez-moi, est absolument gratuit. Nous allons nous quitter maintenant, si vous le voulez bien, par la prière. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père, apprends-nous à répandre nos cœurs devant toi, à t'offrir sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent ton saint nom, à t'apporter chaque jour nos difficultés, nos faiblesses, et à chercher auprès de toi seul le secours et la force. Préserve-nous, Seigneur, de nous confier en nous-mêmes ou de nous appuyer sur le bras de la chair, mais que par une foi vivante, une foi qui est vivante, nous puissions nous acheminer, nous attacher à toi, qui est le rocher de notre cœur et qui est notre partage à toujours. Rends-nous fidèles à chercher le secours toujours présent que tu nous offres, à saisir la main que tu nous tends, afin qu'appuyés sur toi, nous puissions traverser toutes les circonstances de la vie dans la paix et la reconnaissance. Tu sais ce qui nous attend pendant cette journée. Nous savons une seule chose, c'est que celui qui a donné son Fils nous donnera aussi toutes choses avec lui. C'est que tu veux notre bien, le bien éternel de nos âmes, et que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Que dans cette pensée, ô Seigneur, nous nous avancions dans la paix, recevant toutes choses de toi et les rapportant toutes à toi. Reçois nos actions de grâce et notre adoration. Sanctifie le culte que nous te rendons et que ta grâce et ta paix demeurent avec nous pour l'amour de notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen.